18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Bercoff.
Moi, président, dès le mois de mai 2017, je vais faire mieux que tous les autres. Vous savez pourquoi ? Parce que grâce à vous, avec vous, tous les jours sur Sud Radio, nous allons bâtir le programme qui va changer ce pays de fond en comble.
Bonsoir André Bercoff, nous sommes en direct de votre QG de campagne et ce soir, quel est le thème de Moi, président ?
Eh bien, ce soir, le thème, il est assez simple, mais il est fondamental. C'est que la population qui crée des emplois, et on le sait, on en parle tout le temps, mais on ne tire jamais les conséquences de ce qu'on devrait tirer, ce sont les entrepreneurs. On sait qu'il y a en France, rien que par les TPE et les PME, ils sont 3 millions, je ne parle même pas des grosses entreprises du CAC 40, elles réalisent chaque année 1300 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elles sont 99,8% du nombre total d'entreprises, il y a 14 millions de salariés en France, 7 millions travaillent dans les PME et les TPE. En fait, c'est une masse, c'est vraiment une masse qui fait les emplois, et beaucoup plus que les emplois aidés ou les emplois d'avenir, mais on en reparlera. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Et surtout, est-ce que ces entrepreneurs peuvent se passer au moins, non seulement de regarder les politiques de loin et de se plaindre, mais de s'engager en politique ? Ne faut-il pas passer, ne faut-il pas des ponts aujourd'hui, et je parle en tant que candidat, de passer de la plainte ou de l'exacerbation ou de l'exaspération à l'engagement.
Les entrepreneurs doivent-ils s'engager en politique pour sauver la France ? Eh bien, c'est le thème de Moi, président, ce soir sur Sud Radio. Et comme tous les soirs, eh bien, on attend vos appels au 0826 300 300.
Alors, j'ai avec moi quelqu'un qui, justement, lui, a fait les ponts. C'est Charles Becbédé. Bonsoir, Charles.
Bonsoir.
Alors, Charles Becbédé est à la fois entrepreneur, il est homme politique, il est conseiller d'arrondissement, mais il a tenté la députation, il a fait des listes Paris Libéré, il a été au Parti Radical avec Jean-Louis Borloo, et il est toujours, évidemment, entrepreneur, et il vient de sortir un livre tout à fait intéressant, parce que justement, ce n'est pas un livre sur l'entreprise, c'est un livre qui s'appelle « Charnellement de France » aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, où il dit justement son souci de ne pas voir disparaître l'identité française dans tous ses états, et actuellement elle n'est peut-être pas dans l'état le mieux que l'on pourrait espérer. Alors, nous avons avec nous Marilyn. Marilyn Brossat, vous êtes maire de Touché, vous êtes conseillère de département d'une chaire et vous êtes gérante de la société DGM Publigif. Bonsoir Marilyn.
Bonsoir Monsieur Bercoff.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Dites-moi, vous, est-ce que vous pensez que les ponts sont possibles, parce qu'on ne va pas entre entreprise et poste politique, puisque vous êtes vous-même maire?
Oui, bien sûr, je pense que c'est possible. Et j'encourage beaucoup de mes collègues à le faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas que les entrepreneurs ne s'engagent pas plus. C'est certain qu'on manque de temps, qu'on ne peut pas être partout. Mais qui mieux que les patrons de PME, c'est-à-dire mieux que les véritables entrepreneurs de ce pays, peuvent être en mesure d'imaginer les politiques économiques à mettre en œuvre.
Oui, mais alors... Oui, Marilyn Brossat, tu vois, oui. Beaucoup vous diront, et on a eu ça sur Sud Radio, ils disent, écoutez, vous êtes bien gentil, mais nous, on est occupés à gérer notre entreprise du soir au matin, du matin au soir, on fait pas les 35 heures, on en fait 70 heures, comment voulez-vous qu'on s'occupe de politique ? Vous leur répondez quoi ?
Écoutez, on fait encore plus que 70 heures, c'est mon cas, je me lève très tôt, je me couche très tard, et puis je pense que soutenir les entreprises et les PME aujourd'hui, c'est un devoir. Et que il faut encore trouver du temps pour le faire, parce que on voit malheureusement, et notamment avec aujourd'hui avec la loi NOTRe qui met en évidence le leadership économique de la région, on a la plupart de nos élus qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. C'est à nous professionnels d'agir.
Et alors, quand vous dites, vous, professionnels, d'agir, qu'est-ce que vous faites avec ces élus de région qui ne connaissent pas l'entreprise ? Comment vous leur parlez ? Comment vous arrivez à faire pression sur eux ? Ils peuvent se dire, oui, c'est très bien, elle se plaint, elle parle, mais voilà, ça s'arrête là.
Oui, mais pour l'instant, le message est difficile à faire passer, je vous l'accorde, et on n'est pas suffisamment nombreux. Il faut absolument, absolument ne pas perdre de vue qu'on a besoin de cet engagement des chefs d'entreprise. Je crois que c'est pas un problème de temps. Je crois aussi que c'est surtout un problème lié au jugement que cela peut entraîner. Le mot politique chez nous aujourd'hui ne fait pas recette. C'est dommage. C'est pas de la politique qu'on veut faire. Hein. Je crois que c'était Blair qui disait la gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou elle est mauvaise.
Oui.
C'est tout.
Comme la pluie et le vent, effectivement. Ah, oui. La pluie, le vent et le soleil ne sont ni de gauche ni de droite.
Et
c'est
voilà.
Vrai. D'accord. Merci, donc, Marine, merci.
Et vous, alors, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les entrepreneurs doivent davantage s'engager en politique pour sauver la France ? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Bercoff.
Les entrepreneurs doivent-ils s'engager en politique pour sauver la France ? On en parle jusqu'à 19h avec André Bercoff et Charles Becbédé. Et on attend vos appels au 0826 300 300.
Alors Charles Becbédé, vous êtes un cas, je ne dis pas un cas pendable, mais un cas tout à fait intéressant parce que vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé plusieurs sociétés qui marchent bien, vous avez, et aussi vous êtes entré en politique, et vous avez, on en a parlé, et en fait ce que je voulais savoir, comment vous est venu, parce que vous avez commencé je crois par l'entreprise, comment vous est venu le besoin, le désir, la nécessité pour vous de faire de la politique et d'entrer en politique ?
En fait c'est venu par les associations patronales, parce que lorsque je dirigeais... des startups, certaines marchaient bien, et en effet, on m'a proposé de rentrer dans une première organisation patronale qui s'appelle Croissance Plus, dont je suis devenu le président. Et puis, à un moment, j'ai voulu poursuivre ce combat pour les jeunes entreprises au sein du MEDEF. Et je suis rentré au conseil exécutif du MEDEF, et j'ai pu défendre la cause des jeunes entreprises au conseil exécutif, avec tous les présidents de fédération. Mais je me rendais compte qu'on était un peu toujours... des entrepreneurs devant des entrepreneurs à défendre notre point de vue. Et
oui, au MEDEF, mais, vous êtes entre vous.
Ben on est entre nous, part, même à l'université d'été où il y a des milliers de personnes, c'est toujours que des entrepreneurs. Et donc, je crois qu'il faut qu'on sorte et qu'on aille dans l'espace public parce que, entre-temps, la situation s'est tellement dégradée, non seulement au niveau économique et social, avec le chômage, les déficits et la dette, mais aussi au niveau, malheureusement, de la crise existentielle que nous traversons, la crise identitaire, les violences, le communautarisme, les attentats.
Donc vous parlez très bien d'acharnement de France, oui, dans votre
livre. Et donc la confiance, elle n'est plus là. On est vraiment dans une situation, bon, je ne vais pas donner le bourdon aux auditeurs, mais enfin, ils le voient bien. Donc ces crises-là, on ne va pas s'en sortir simplement avec des réformes économiques et sociales. Et donc il faut savoir traiter tous les sujets à la fois. Et donc moi, je m'engage en politique pour soutenir quelqu'un qui saura traiter non seulement les sujets économiques et sociaux aussi bien que possible, bien sûr. Et là, bah, il faut dérigidifier le marché du travail, il faut baisser les charges et les impôts, c'est simple. Mais aussi, simultanément, donner un sursaut à la France en traitant le défi identitaire et culturel et donner une vision aux Français, un espoir, une fierté d'être Français. Et à ce moment-là, ça pourra repartir de l'avant. Mais... Sinon, on ne sortira pas du climat de défiance. Donc, et sans confiance, pas de croissance.
Alors vous, ce que vous dites, Charles Becbédé, c'est que c'est inséparable quelque part. C'est-à-dire, oui... Il faut faire en sorte que la croissance reparte avec toutes les mesures techniques, économiques et autres. Et on voit bien le code du travail et puis beaucoup d'autres choses. Mais vous dites, ce ne sera que la moitié du chemin si on ne redonne pas la fierté des Français, on ne redéfinit pas ce qu'est la France et les Français.
Oui, et qu'on ne traite pas concrètement le problème du communautarisme, et notamment du communautarisme islamique qui gangrène nos villes et nos campagnes et qui fait que les Français n'ont plus confiance en l'avenir parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça se dégrade de jour en jour ? Et d'ailleurs, si vous voulez, même si quelqu'un faisait les réformes économiques et sociales les plus intelligentes possibles et qu'il arrivait à les faire...
Ben, ce qui n'est pas facile.
En réalité, ce que je décris est impossible parce qu'il n'aurait pas le soutien des Français. Parce que, et bien même, supposons qu'il le fasse, et bien, quelque part, la confiance n'étant pas là, puisqu'on n'aura pas traité l'autre sujet, et bien, il n'y aurait jamais de croissance. Donc, en fait, il faut traiter les deux sujets simultanément.
Alors, une question. Ça a été plus difficile de faire de la politique que de faire de l'entreprise ? Très franchement, pour vous.
Ah bah oui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne maîtrise pas. Si vous voulez, une entreprise, on est le chef, on prend des décisions, on fait des erreurs, on les corrige, on avance. Et puis, l'élection, elle a lieu tous les jours. Hein, quand on vend des produits, on peut.
Ça marche pas.
Alors qu'en politique, il faut rentrer dans des grandes machines électorales que sont les partis politiques. Ce sont des intrigues politiciennes à n'en plus finir. On parle d'ailleurs très rarement du fond, mais uniquement de ces intrigues pour avoir l'investiture. Et puis on vend son produit tous les 5 ans. Donc c'est extrêmement long et pénible et difficile. Donc d'ailleurs, moi j'en ai tiré les conclusions. À un moment, j'ai dû me mettre à mon compte parce que je n'y arrivais pas en tant que... Quand on a été chef d'entreprise, quand on est chef d'entreprise, on ne se met pas dans le moule de ces grands partis politiques.
Vous dites qu'il faut que je fasse ma propre firme. Alors je voudrais demander, Nicolas Doucerin, vous êtes avec nous ?
Oui. Bonsoir,
monsieur Doucerin.
Ah ben bonsoir, Nicolas, comment vas-tu?
Je vois que vous connaissez, c'est bien. Alors, on va pas rester entre nous, mais on va quand même pour présenter Nicolas Doucerin, président de Nous Citoyens, entrepreneur, auteur de Ma petite entreprise a connu la crise. Alors, est-ce que vous aussi, comme Charles Becbédé, comme d'autres, comme d'ailleurs Marilyn Brossa, est-ce que vous êtes aussi pour une nécessité quand même de s'occuper de politique, mais vraiment de s'occuper vraiment de politique, Nicolas Doucerin?
Oui, si vous voulez, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'est déjà. Vous savez, un mouvement tel que le nôtre, qui a été créé par Denis Père, qui était l'un des, si je ne me trompe, Charles, d'ailleurs, le président fondateur de Croissance Plus, à l'origine.
Absolument.
Denis Père s'est investi dès octobre 2013 pour créer Nous Citoyens. Et évidemment, il y a des centaines, des milliers d'entrepreneurs, mais pas que, des salariés, des présidents, des animateurs d'associations, des agriculteurs, des jeunes, des ouvriers, des retraités. Moi, j'aime bien parce que, si vous voulez, dans le pays dans lequel on vit aujourd'hui, il faut d'abord entreprendre pour soi. Hein. On peut entreprendre pour une cause, on peut entreprendre pour une association. Quand on fonde une famille, on est entrepreneur. Hein. On construit, on bâtit, on investit pour l'avenir. Et aujourd'hui, on a besoin de réconcilier nos entrepreneurs, on a besoin de réconcilier l'écosystème avec notre politique. Je crois que Charles a très bien expliqué tout à l'heure. Ce que l'on condamne aujourd'hui, notamment chez Nous Citoyens, c'est d'avoir des professionnels de la politique. On a un système qui a été mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, qui finalement fabrique des professionnels de la politique. Et notre objectif chez Nous Citoyens, ça n'est pas finalement de renverser tout un système, c'est de réconcilier le citoyen avec la manière de faire de la politique.
Et
le
seul moyen... alors Nicolas Doucerin, je vous interromps juste, et la question que je poserai aussi à Charles Becbédé, mais concrètement, est-ce que vous avez arrivé à franchir la muraille de Chine? Parce que tout ça, c'est de très belles paroles, c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que vous arrivez? Vous arrivez à peser ou pas? Et comment?
Je vais vous le dire avec une très grande fierté ici ce soir. Nous avons gagné la première des batailles, c'est celle des idées. En octobre, regardez ce qui s'est passé au premier quinquennat pour François Hollande. Le débat présidentiel de l'époque, c'était quoi? C'était de mettre en place une taxe de 75% sur ceux qui gagnaient plus d'un million. Nicolas Sarkozy se battait pour l'exonération de charges sur tous ceux qui gagnent entre 1,2 et 1,41 fois le SMIC, et c'était la réforme du permis de conduire. Est-ce que vous avez vu le débat? Vos auditeurs ont pu observer le débat, en tout cas pour la primaire de la droite et du centre. Le citoyen, la société civile, est au cœur de l'élection présidentielle de 2017. Qu'est-ce qui a mis en place le fait de créer le statut de l'élu? C'est une proposition de Nous Citoyens. De revenir au mandat unique pour le président, c'est une proposition de Nous Citoyens. Le non-cumul des mandats, c'est une proposition de Nous Citoyens. De faire baisser le nombre de fonctionnaires élus à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une assemblée qui soit représentative de la société française. La baisse des dépenses publiques, de recentrer l'État sur ses missions régaliennes avec un gouvernement resserré de 15 minutes pour laisser à la société civile ce qu'elle est capable de gérer et laisser l'État se concentrer sur ses missions régaliennes. Ce sont des propositions qui ont été élaborées par les citoyens, pour les citoyens, et vous voyez bien que cette évolution, à la fois des mentalités et des idées, elle pèse aujourd'hui dans le débat.
Très bien. Nicolas, on va continuer à en parler.
Oui, et on parle des entrepreneurs. Doivent-ils peser sur les politiques pour changer la France? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. A tout de suite sur Sud Radio.
18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Bercoff.
Les entrepreneurs doivent-ils entrer en politique pour sauver la France? Eh bien, on en parle jusqu'à 19h avec André Bercoff et Charles Becbédé. Et on attend vos appels au 0826 300 300.
Et dans Moi Président sur Sud Radio, on regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Charles Becbédé, en fait, vous, ça fait quand même quelques années que vous suivez, que vous êtes en politique, que vous avez fondé des mouvements, que vous êtes essayé à la candidature, à diverses candidatures. Au fond, est-ce que c'est ce que disait d'ailleurs Nicolas Doucerin? Est-ce que, à partir du moment où les gens changent, les gens s'en aperçoivent, est-ce que vous pensez que les politiques sont obligés d'en tenir compte et comment?
Oui, ben c'est clair. Ils savent que les Français ne font plus confiance à leur politique. 90%. Et donc, heureusement, ils le prennent en compte et ils ouvrent leur rang progressivement à différentes personnalités issues de la société civile. Il y a d'ailleurs Virginie Calmels qui est chez Juppé.
Oui, qui était en démol.
Oui, il y a plusieurs personnalités qui accompagnent François Fillon dans la bataille des primaires et qui l'ont aidé à élaborer son programme présidentiel. Donc, François Fillon a d'ailleurs déclaré qu'il souhaitait plus tard, s'il accède à la magistrature suprême, avoir dans son gouvernement plusieurs personnalités issues de la société civile. Idem à l'Assemblée nationale. Donc là, on a beaucoup de retard par rapport au Parlement britannique. On n'a pas assez de...
Oui, il y a 29 chefs d'entreprise sur les 577 députés de l'Assemblée nationale.
C'est quand même pas beaucoup.
Pas beaucoup. Donc, enfin, là, c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup.
Des entrepreneurs, bon, et il en faut plus, au Sénat aussi. Donc ça commence à faire son chemin. Et je pense que lorsque les investitures vont être réalisées par les Républicains, en tout cas, il y aura un certain nombre d'investitures qui seront confiées à des personnalités issues de la société civile. Donc ça, c'est bien. Donc ça fait son chemin, parce qu'il faut reconnaître quand même que ce n'est pas évident pour, en revanche, des gens de la société civile, des nous citoyens ou autres. Oui. Nous, c'est l'avant-garde et d'autres mouvements complètement hors parti. De prendre le pouvoir. Soyons honnêtes, on est en 5e République, on a des machines électorales qui sont installées depuis un certain temps, il y en a trois grosses là, et il faut passer par elles si on veut prendre le pouvoir.
Oui, mais alors, justement, l'Amérique n'est pas la France n'est pas l'Amérique, on le sait, ça se saurait si c'était autrement. Mais regardez quand même le phénomène Trump, chef d'entreprise, multimilliardaire de l'immobilier, pas du tout républicain au départ, entrant comme ça, faisant une espèce d'irruption fracassante, et ne parlant pas seulement que du chômage, que de la dégradation, mais parlant de l'identité américaine. Make America great again, etc. Et on a vu jusqu'où ça arrivait, puisqu'il est aujourd'hui président des États-Unis, alors que personne ne parie un copec sur lui. Est-ce que cette chose, est-ce que cette aventure est impensable en France, en tout cas aujourd'hui ou demain, ou bien ça vous paraît, à la française, pouvoir être un jour envisagé, Charles Becbédé?
C'est envisageable, mais je vous fais remarquer que Trump a été élu sur un programme très simple, finalement. Identité et contrôle des flux migratoires d'un côté, baisse d'impôts, il est passé par le parti des Républicains. Donc il y a deux grands partis aux États-Unis depuis deux siècles, et il est passé par là. Alors il a fait une excellente campagne, notamment de la primaire des Républicains, puisqu'il a écrasé médiatiquement les autres candidats, et puis ensuite, après, il a un peu tempéré son programme pour le rendre plus crédible, et puis il a été élu. Mais alors ça, c'est possible en France. Mais d'ailleurs, vous savez, c'est en train un peu de se produire là, avec la primaire des Républicains qu'il y a eu il y a quelques jours. Alors, le premier tour, en tout cas.
Alors, je vais vous poser une question très directe d'actualité. Vous, le dimanche soir, c'est le second tour. Vous allez voter pour qui?
Moi, je soutiens totalement François Fillon, car c'est vrai que ça a été un peu une surprise, que sa victoire éclatante du premier tour, mais il est sur une ligne conservatrice, identité et libérale. Donc c'est exactement la ligne que je défends depuis toujours, c'est pour ça que je suis entré en politique.
Libéral sur l'économie et conservateur sur le sociétal.
Sociétal et protecteur au niveau aussi des frontières et de l'identité de la France et de l'unicité culturelle de la France. Et ça, c'est important parce que son adversaire dans cette bataille, c'est Alain Juppé. Alain Juppé, lui, c'est plutôt le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'il a un peu capitulé. Il considère que non, c'est trop tard, la France est multiculturelle. François Fillon, non. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est un vrai débat entre les deux tours. Et j'espère que c'est lui qui va l'emporter. En tout cas, je le soutiens totalement.
Nicolas Doucerin, vous partagez, puisqu'on est dans l'actualité politique, je suis obligé de vous poser des questions, puis j'en ai envie aussi. Vous partagez l'opinion de Charles Becbédé ou pas? Ou qu'est-ce que vous en pensez par rapport, justement, parce qu'on est entrepreneur et politique? Dites-moi.
Oui, alors, sur l'aspect politique du président, là, je mets une petite pointe. Il y a quand même une petite différence, et je vais venir compléter ce que vient de dire Charles Becbédé. C'est pas tout à fait la même chose. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il passe par les deux grands partis que nous avons aux États-Unis pour l'élection présidentielle, mais il y a une grosse différence. C'est que Donald Trump, il peut investir personnellement des centaines de millions de dollars pour financer et gagner la campagne médiatique. Je vous rappelle qu'en France, c'est impossible. Ouais. Un grand patron français, aussi brillant soit-il, aussi fortuné qu'il peut, il ne peut pas arriver et dire « je mets 50 millions d'euros pour gagner l'élection présidentielle ». Ça n'est pas possible, puisque la loi l'interdit.
Mais pourquoi Nicolas Doucerin, il ne peut pas le faire? Vous voulez dire que nos milliardaires à nous ne peuvent pas faire ça?
Ah non, mais ça n'est pas possible, puisque la loi sur le financement des partis politiques, vous êtes limité à 7 500 euros par an, financés par personne. Les entreprises ne peuvent pas financer les partis politiques.
Tu sais, Nicolas, que Donald Trump a très peu dépensé d'argent dans la première partie de la campagne. C'est après, quand il y a les campagnes de pub qui se lancent au niveau national, que les millions de dollars pleuvent.
Oui, mais
pleuvent.
S'il y a une loi en France,
les lobbies que sont les pétroliers, les banquiers, les assurances, peuvent financer à coût de centaines de millions de dollars les partis politiques américains, ce qui n'est pas possible en France.
Demain, c'était d'ailleurs une des forces de Trump, d'ailleurs, c'est qu'il avait refusé tout financement par les lobbies.
Oui, absolument. C'est pour ça qu'il a... Non, mais pour revenir à la France, Nicolas Doucet, et ensuite je donnerai la parole à Julien. Dites-moi, est-ce que vous pensez, alors au-delà de l'exemple Trump, effectivement, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que vous pensez que il est possible en France qu'on voit un jour, parce que jusqu'à présent, si je regarde l'histoire de la 5e République, laissons-la, parlons pas de la 4e, parlons pas de... Est-ce qu'il est possible de voir un jour un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a vraiment été dans l'entreprise pendant assez longtemps pour voir briguer la magistrature suprême, où ça vous paraît une aimable utopie et qu'il faut, au contraire, d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais de peser à la fois de l'intérieur et de l'extérieur sur les représentants politiques.
Je vais faire la réponse que Charles a évoquée tout à l'heure. Je pense que ça peut être possible si et seulement si un grand patron, un chef d'entreprise, accepte de rentrer dans un des grands partis politiques aujourd'hui et qui chemine petit à petit pour atteindre l'élection suprême. Un grand patron comme ça, créant son propre parti par temps seul, aujourd'hui, compte tenu de la législation, du code électoral et du système de financement des partis politiques en France, c'est quasi impossible. C'est bien pour ça que nous, citoyens, luttent, et je crois que Denis Père en a aussi, en quelque sorte, tiré les conséquences. C'est un chemin qui est très très long, et je pense que Charles ne contredira pas sur ce... Oui,
tout à fait d'accord, et il faudrait un peu de renouvellement au niveau des dirigeants de ces grandes machines politiques, lorsque... On est battu,
lorsqu'il bouge. Bien,
nous avons,
merci. Nous avons Julien. Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir à tous.
Oui, bonsoir. Alors, quel est votre sentiment sur ce rapport des entrepreneurs qui devraient, enfin, en tout cas, c'est mon idée, c'est mon avis. Je veux dire, même en tant que candidat, je trouve que les entrepreneurs, il n'y a pas que les entrepreneurs, mais enfin, c'est quand même une partie importante de la population française, eux, leurs salariés, etc., devraient plus s'engager en politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, je vous dirais forcément oui à 300%, mais j'ai envie de dire, comme n'importe quel citoyen, moi, pourquoi est-ce que le 6 avril dernier, j'ai, moi, chef d'entreprise, adhéré à En Marche, fondée par Emmanuel Macron? C'est pour trois raisons principales. C'est parce que, un, je suis un de ces petits patrons qui sait ce que ça veut dire que de devoir payer un appel de cotisation RSI alors que je ne vais me mettre pas un seul euro de rémunération. Donc arriver dans une situation où finalement travailler, c'est avoir des problèmes. Mais c'est pas la seule raison. Je fais aussi partie de cette classe moyenne qui peut difficilement devenir propriétaire aujourd'hui. Mes parents pouvaient le devenir à 20 ans, j'ai 35 ans, c'est très difficile. Mais je fais aussi partie de ces citoyens, tout simplement, qui en ont marre de voir depuis 35 ans les mêmes hommes politiques qui donnent le sentiment de servir leurs intérêts et non plus ceux de leurs concitoyens. Donc je dirais attention, quand on est entrepreneur et qu'on veut s'engager en politique, il faut pas le faire pour défendre les intérêts de l'entreprise, parce que dans ces cas-là, on va au MEDEF, on va à la CGPME. Il faut le faire en ayant conscience, et c'est mon cas, il faut le faire en ayant conscience et en faisant comprendre aux Français que quand on abîme l'entreprise, quand on crée des difficultés pour l'entreprise, finalement, on abîme le travail. On rend plus difficile le travail. Et ça, dans notre société, le travail, c'est quoi? Mais le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est se construire. Le travail, c'est avoir un statut. Donc,
et puis,
je vous dirais,
avoir un travail déjà.
Et
juste un mot, quand vous dites ça, oui, ce que vous dites, c'est que j'ai retenu sur le RSI, vous dites qu'en fait, un entrepreneur aujourd'hui, avant d'avoir gagné, et que son entreprise ait gagné, je dirais pas un franc, mais enfin un franc, un euro, je parle comme un Juppé maintenant, eh bien, il doit déjà dépenser. C'est ça.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait,
on n'attend pas,
en fait, que vous ayez déjà un chiffre d'affaires conséquent pour vous demander des impôts, on vous les demande avant. C'est ça.
C'est pas qu'on n'attend pas, c'est que de toute façon, le système, il est calculé en amont avec des appels de cotisation. Alors après, il peut y avoir des régulations, mais vous pouvez vous retrouver un mois où vous faites zéro euro de chiffre d'affaires, où vous n'avez pas de trésorerie, et vous devez payer 1 500 euros au RSI à l'URSSAF. C'est tout à fait possible. Donc comment est-ce qu'on peut faire comprendre aujourd'hui à quelqu'un qui va travailler 70 heures par semaine, qu'à la fin du mois, il sait qu'il ne pourra pas forcément payer son loyer ou nourrir ses enfants, qu'il doit se saigner, s'endetter pour payer une cotisation dont finalement il ne voit
bien
pas
sûr
le sens. Mais bon, je me permettrai juste une petite coquetterie,
oui,
parce que j'ai entendu quelqu'un soutenir Monsieur Fillon. Bon, moi je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur.
Charles. Oui. Et
voilà, Monsieur Becbédé, je me suis engagé le 10 avril. Bon, je regarde les faits. Qui, aujourd'hui, prend des risques? Qui sort des rails? Qui se dit, aujourd'hui, je vais finalement sur un marché, dans un espace démocratique où je sens qu'il y a des besoins qui ne sont pas pourvus? Moi, je suis entrepreneur. Pour moi, Emmanuel Macron, il est un entrepreneur de la politique. Et là, je dois vous avouer que pour moi, ça fait la différence.
Très bien. Non, mais on a bien compris que vous étiez dans la marche, et c'est tout à fait en tout cas.
Merci.
Je voudrais quand même, avant de redonner la parole à Charles, donner la parole à Vincent. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chauffagiste industriel et vice-président de la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Quelle est, vous, votre opinion sur cette discussion, sur le rapport des entrepreneurs et des politiques?
Alors, moi, je pense que tous les artisans et les entreprises libérales devraient se regrouper au sein des organisations professionnelles afin de peser plus et afin d'être écoutés par les politiques. Nos organisations professionnelles, elles, sont écoutées par les politiques parce que nous sommes plus nombreux. Bien évidemment qu'à l'Assemblée, il faudrait plus de députés, mais d'abord, il faudrait que nos organisations professionnelles soient, tous les artisans s'y rassemblent afin d'être plus forts et afin d'être écoutés, essentiellement.
L'union fait la force. Mais pour vous, par exemple, il n'est pas question de rentrer dans un parti politique ou de faire partie d'une formation politique, vous-même, Vincent?
Non, à l'heure actuelle, si vous voulez, je suis à l'UPA et à la CAPEB, donc je ne peux pas être militant au sein d'une organisation professionnelle et en même temps militant au sein d'un parti politique. Par
D'accord,
contre, je peux être adhérent à un parti politique et militant au sein d'une organisation professionnelle et inversement. Si
je vous comprends. Donc vous vous dites, unissez-vous et faisons pression. Charles Becbédé, on parle de tout ça, effectivement, on ne va pas rentrer dans la discussion Macron-Fillon.
Oui.
Mais en même temps, c'est intéressant, mais on ne va pas discuter de leurs mérites respectifs. En revanche, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, quelque part, tous les deux, seraient quand même plus pro-entrepreneurs que d'autres?
C'est clair, je reconnais à Emmanuel Macron une énergie entrepreneuriale et puis une volonté d'ouvrir les choses, de déréglementer, de libéraliser. Il l'a fait dans plusieurs domaines. Mais ce qui m'intéresse dans François Fillon, c'est qu'il a aussi cette vision d'une ouverture de l'économie, d'une France conquérante retrouve des degrés de liberté parce que en baissant les cotisations, les impôts et en dérigidifiant le code du travail. Et ça va permettre de créer de l'emploi, des richesses, de financer la solidarité qui sinon est faite à crédit et c'est ce qui est une honte. Et puis en même temps de traiter les autres grands sujets qui se posent à la France, qui sont des gigantesques défis qui, si on ne les traite pas, ne permettront pas de retrouver la confiance et donc la croissance. Donc c'est là que je trouve que François Fillon est intéressant pour la France. Mmh. Son projet est équilibré et il va pouvoir, j'espère, s'il est élu, permettre à la France de retrouver une sérénité, une confiance en l'avenir et donc une croissance, faire en sorte que le chômage baisse et puis que la confiance revienne.
Et puis que la confiance revienne. Je voudrais, Nicolas Doucerin, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'un jour, je ne sais pas, là on va fantasmer, on va faire de la politique fiction, mais ils sont des millions d'entrepreneurs. Pourquoi on n'en voit jamais? On en voit de temps en temps, il y a eu les pigeons, il y a eu tout ça, il y a eu... Mais enfin, franchement, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de temps en temps, la rue c'est pas complètement méprisable, pourquoi il n'y a pas plus de des centaines de milliers d'entrepreneurs? Parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas la formation, pourquoi ils ne sont pas capables? C'est très bien, nous citoyens, et c'est formidable, et vous êtes dans l'avant-garde et vous montrez les choses. Mais pourquoi on n'a pas une manifestation un jour de dizaines de milliers d'entrepreneurs qui descendraient et qui se manifesteraient sur un certain nombre de choses? On a pratiquement jamais vu ça.
Ben oui, mais parce que vous donnez un élément de réponse, c'est qu'on est à la fois très fort parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux, et
oui,
en même temps, on est extrêmement, extrêmement dispersés. Vous savez, moi, quand je fais mes réunions auprès de nos adhérents et sympathisants, j'en ai un encore à Strasbourg la semaine dernière qui me dit, si on veut faire plier l'État et mettre la pression, il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour que le 21 du mois, on arrête de payer la TVA, l'URSSAF, les charges sociales et les impôts et qu'on mette en faillite l'État.
Ouais. Eh ben oui. Eh ben oui, eh ben pourquoi pas.
Tout ça, c'est de l'insurrection. Il faudrait coordonner tout ça pour mettre la pression. Et nos politiques actuelles en jouent très bien. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous aviez une élue en début d'émission.
Ouais.
Comment ça se passe, regardez. Je vais reprendre, tiens, la dernière élection présidentielle. Vous avez le président Sarkozy et Hollande, qui vont, les deux candidats, qui vont voir les syndicalistes de Aulnay. Bon.
Ouais.
Évidemment, Aulnay, c'est médiatique. Hein, on ne veut pas la fermeture d'Aulnay, on va donc légiférer, on va consulter le gouvernement, les députés, faire des lois, essayer de sauver. Puis qu'est-ce qui se passe après? Bon, bah Aulnay, finalement, c'est quand même balayé, en final, ça finit par fermer. Par contre, personne ne se préoccupe d'une chose, c'est les 1500 sous-traitants qui travaillaient pour le site d'Aulnay, qui, eux, beaucoup, ont déposé le bilan, et pourquoi on s'en occupe pas? Ils pèsent plus d'emplois, plus de richesses, on les laisse tomber parce que médiatiquement, ça ne pèse rien. On parle des 400 emplois d'Alstom aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se mobilise? Parce que Alstom, c'est un grand groupe français, connu parce que des syndicats, mais qui parle des sous-traitants d'Alstom qui sont les premiers pénalisés? Et là, vous avez des centaines d'entrepreneurs derrière.
Exact. On va en reparler tout de suite, Nicolas.
Oui, à tout de suite, Nicolas. La question ce soir, c'est les entrepreneurs doivent-ils s'engager davantage en politique pour sauver la France? On attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
18h-19h, moi, président, sur Sud Radio, André Bercoff.
Mais nous poursuivons cette discussion passionnante avec Charles Becbédé, avec Nicolas Doucerin, avec Vincent, avec Julien, avec d'autres encore. Ils sont très nombreux à nous appeler sur l'antenne de moi, président, de Sud Radio. Et quand même, Charles Becbédé, effectivement, non, je suis pas Robespierre ni Saint-Just, je n'appelle pas à l'insurrection générale, à la reprise de la Bastille ou du Palais d'Hiver. Mais quand même, tous ces entrepreneurs qui, encore une fois, on l'a dit, c'est pas seulement un cliché, créent les emplois, c'est pas les emplois aidés, pas les faux emplois, les vrais emplois. Bon, est-ce qu'à un moment donné, et je pense à ce que disait Julien, en disant, moi je retrouve, je n'ai pas un euro de chiffre d'affaires et je suis obligé de payer tant, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même la tentation, et une tentation honnêtement qui peut se comprendre, de dire à l'État, attendez, nous on peut plus là. Et le 21 du mois, effectivement, on disait, on arrête tout et on discute, on arrête et tout. On ne met peut-être pas l'État en faillite, mais on le met en danger.
Surtout qu'en France, c'est vrai que l'environnement n'est pas favorable parce qu'on a, on a fait un choix de faire peser la protection sociale, l'État-providence, beaucoup sur les entreprises et les entrepreneurs. Et donc, par rapport à nos collègues allemands ou même italiens, on a beaucoup plus de charges et beaucoup plus de rigidité et d'impôts. Donc, c'est vrai que la tentation est forte. Alors, il y avait un roman qui s'appelait « La grève », d'ailleurs, d'Ayn Rand, une grande romancière américaine, Atlas Shrugged, ça s'appelait en américain.
Ouais.
Et donc, justement, alors, tous les entrepreneurs se mettaient en grève, arrêtaient. Et d'accord. L'économie, évidemment, s'arrêtait et l'État arrêtait de fonctionner. Alors, il y a en France un mouvement qui a essayé de faire ça, qui s'appelait les tondus, je crois. C'était dans l'émanation des pigeons.
Ouais.
Mais ça s'est très mal passé parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et ils ont eu des contrôles fiscaux et URSSAF à l'appel. Donc, si on fait une grève, il faut être 100 000 ou 1 million d'un coup, sinon ça se passe très mal.
Non, mais alors justement, bon, on va pas appeler à l'insurrection ni à la grève, mais en revanche, quand même, est-ce qu'on ne peut pas se dire que aujourd'hui, il y a quand même le MEDEF, il y a beaucoup de politiques qui viennent au MEDEF, qui viennent CGPME, etc. Et au fond, est-ce qu'on ne peut pas exiger quelque part, et vous savez, on va en période d'élection, nous sommes au second tour de la primaire, en janvier, primaire de gauche, et surtout, élection présidentielle, en avril et mai, bon, les deux tours. Charles Becbédé, vous seriez conseiller à la présidence, quel serait pour vous, franchement, compte tenu de ça, compte tenu aussi de ce que vous avez dit sur l'identité, avec ce que vous dites en charnellement la France, quel serait pour vous, et ça ce n'est pas moi président, simplement, quelles seraient pour vous les mesures les plus importantes à prendre dans les 100 jours, dans ce qu'on appelle l'état de grâce qui dure 3 mois, en tout cas les 2 ou 3 mesures qui vous paraissent, qui ne résolvent pas tout le problème, mais qui vous paraissent les plus importantes par rapport à la France?
Au niveau économique et social, vraiment une baisse massive d'impôts et d'allègements fiscaux sur les entreprises et les entrepreneurs, parce que franchement, c'est eux qui créent les richesses, c'est eux qui créent l'emploi, et donc l'urgence absolue, c'est, c'est lutter contre le chômage et redynamiser l'économie. Et simultanément, il faut aussi traiter le problème de l'école, qui ne fonctionne plus, qui est en miettes, et donc plus d'autonomie dans les établissements. Et puis, au niveau national, remettre l'État, refaire en sorte que l'État soit plus fort, parce que recentré sur le régalien, ce qui permet de diminuer son emprise. Parce que quand un État veut tout faire, il est obèse, il fait
plus
tout mal.
Plus fort, mais plus,
pas plus gros. Plus fort, voilà. Mais plus maigre.
Plus maigre. Voilà.
Amaigri, et, mais plus efficace, qui fait respecter les règles. Et du coup, qui peut consacrer plus de moyens à la justice, à la défense, à la sécurité. Et puis juste, alors moi, personnellement, je pense qu'il faut aussi un peu plus de contrôle aux frontières. Et puis, remettre les choses à l'endroit au niveau de la confusion qui règne aujourd'hui sur le multiculturalisme. C'est-à-dire que la France, elle est bien sûr multiethnique, elle est bien sûr multireligieuse et depuis très longtemps, mais elle n'est pas multiculturelle. Et ça, je pense qu'il ne faut pas abandonner, parce qu'on a 15 siècles d'histoire, c'est ce que j'explique dans mon livre « Charnellement de France ». Et c'est, on n'est pas le Canada, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est multiculturel. Ni même les États-Unis, encore que les États-Unis, d'ailleurs, ont une histoire dont ils sont très fiers. Et ça, c'est très important pour remettre les choses à l'endroit.
Julien, vous partagez les vues de Charles Becbédé de ce point de vue ?
Je dirais, moi j'aurais deux mesures principales. La première, c'est en effet, qu'est-ce qu'on veut valoriser dans notre société ? Est-ce qu'on veut, alors je dirais de façon politique, si on fait une lecture un peu politique, on va se dire la droite a valorisé la propriété et le capital, à gauche on va valoriser la consommation avec une vision keynésienne, mais au final on oublie quoi ? On oublie le travail. Qu'est-ce qu'on veut valoriser ? Et si on veut valoriser le travail, bah oui, aujourd'hui, moi dans mon entreprise, quand je veux payer quelqu'un 1 300 € net, ça va coûter à l'entreprise 2 000 €. Eh ben, si on vient au pouvoir, sur ces 2 000 €, c'est pas compliqué, c'est 700 € de charge, il y en a la moitié, elles doivent sauter. 150 € de plus pour le salarié, 150 € de plus pour l'entreprise. Et ça, c'est tout de suite, on doit valoriser le travail. C'est essentiel. Aujourd'hui, c'est à travers le travail qu'on doit gagner sa richesse. Et c'est ça qui doit être valorisé.
Merci Julien. Vincent, pour vous, quelle serait la première réforme à faire pour vous ?
Alors, la première réforme, il faudrait créer de l'équité. Dans ce pays, en fait, on n'a pas d'équité. Vous avez face aux artisans le régime de la micro-entreprise et celle des travailleurs détachés, plus l'ubérisation. Comment voulez-vous déjà que les artisans de ce pays arrivent à lutter ? Déjà, il faudrait légiférer sur ce problème-là. La micro-entreprise a un problème de TVA. On fait croire à ces gens-là qu'en fait, ils vont pouvoir travailler grâce à ce régime-là, alors que c'est complètement faux. L'ubérisation, c'est pareil, on le voit au travers de nos problèmes, de nos collègues taxis. Le problème principal pour moi, c'est ça, il faut légiférer sur ce problème-là. Et ensuite, il faudrait également légiférer. On prend un exemple concret. J'ai embauché un apprenti qui, désormais, touche moins que ce qu'il touchait quand il était apprenti. Alors, le fait est que, quand il était apprenti, comme il a 45 ans, il n'était pas chargé, et en étant désormais employé, il
a
est
des
chargé. Donc, il touche moins.
D'accord.
Donc, j'ai fait appel aux aides de l'État qui m'a dit on va vous donner 4 000 € pendant 2 ans. Donc, j'ai dit très bien, j'ai dit à ma comptable, eh bien, donc, on va donner 200 € de plus à l'employé, comme ça, il vivra mieux. Eh bien, on m'a dit, mais non, si tu donnes 200 € de plus, en fait, c'est pas 4 000 € que tu vas toucher, c'est 2 000. Alors, je trouve que, voilà, je voulais donner du pouvoir d'achat à mon employé, mais je ne peux pas.
Je vous ai écouté, Vincent. Oui, c'est l'absurdité du système et franchement, c'est une absurdité qu'il faut faire sauter. Juste un mot, Nicolas Doucerin, juste un mot. Vous, la première, mais vraiment en une phrase, la première mesure, ce serait quoi ?
La première mesure, c'est l'exemplarité de l'État. On peut baisser les charges sociales telles qu'on vient de le dire, mais pour baisser les charges sociales, il faut que l'État amaigrisse et se recentre sur ses missions régaliennes. Tant que l'État ne se transformera pas, n'allègera pas ses structures, on ne sera pas en capacité de pouvoir réduire nos charges. Et deuxième élément qui me semble fondamental, mais c'est compliqué en une minute, je ferai un investissement massif sur la jeunesse, massif, pour créer ce choc psychologique qu'a évoqué Charles Becbédé à juste titre tout à l'heure. J'investirai massivement sur la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser en France 1 sur 4 sans emploi. C'est inacceptable pour un pays comme la France.
François Hollande l'a rêvé, mais ne l'a pas fait. On verra bien si Charles Becbédé et le prochain président de la République le fera.
En tout cas, vous pourrez réécouter cette émission sur le podcast Sud Radio, sur le site internet de la radio. Et demain, André Berkoff, donc quel sera le thème de moi, président ?
Eh bien demain, quels sont les vrais ennemis de l'Occident ? On va parler géopolitique, on va parler des alliances et on va parler du renversement des alliances avec un géopolitologue qui est tout à fait passionnant, absolument à rebrousse-poil, comme l'est Charles Bec Bédé et d'autres. Il dit, attention, il ne faut plus suivre aveuglément telle ou telle puissance. L'Europe, c'est aussi de l'Atlantique à l'Oural. Il faut se rabibocher avec la Russie et il faut voir bien peser les menaces, qu'elles soient menaces islamistes ou autres, et surtout, bien peser sur le nouvel équilibre des nations. C'est demain, c'est moi président.
Bonne soirée à l'écoute de Sud Radio.